Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les autorités tunisiennes ont fait appel aux forces armées pour protéger les administrations et les établissements publics après les protestations dans la région d'Agareb. Les affrontements entre des jeunes gens et des policiers à Agareb suscitent des réactions politiques. Les heurts lundi soir ont fait plusieurs blessés. Le ministère de l'Intérieur assure que le décès d'un jeune de la ville n'a aucun rapport avec ces affrontements. Nous y reviendrons avec le président d'État Katol, le docteur Khalil Zaouia. L'allègement des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Maroc. Le gouvernement lève le couvre-feu national en vigueur depuis les premiers mois de la pandémie. Le pass vaccinal lancé le 21 octobre reste obligatoire pour voyager à l'étranger et accéder à tous les lieux clos. Le chef de l'État français a appelé hier soir les 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés contre le Covid-19 à le faire. Les personnes âgées de plus de 65 ans, déjà éligibles à la dose de rappel, devront justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15 décembre pour prolonger la validité de leur passe sanitaire. Un roman autour de la question musulmane, il s'agit de « Heureux comme Abdallah en France » de Karim Ghelati, publié aux éditions Encre de Nuit. Il sera l'un de nos invités. Des forces de l'armée tunisienne se sont déployées hier dans la ville d'Agareb, dans le gouvernorat de Sfax, dans le sud de la Tunisie. Un déploiement pour sécuriser les institutions gouvernementales après le retrait des forces de l'ordre à la suite d'affrontements avec des manifestants. Des centaines de jeunes gens de la ville d'Agareb, près de Sfax, ont fait part de leur colère dans la nuit de lundi à mardi. Ils protestaient contre la décision de rouvrir la décharge d'ordures d'El Ghena dans les environs de leur localité. Des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait plusieurs blessés. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué pour préciser que le décès d'un jeune de la ville n'avait aucun rapport avec ces heurts. Réaction suite à ces violences du président d'État Katol, le docteur et ancien ministre tunisien Khalil Zaouia.
Ce n'est pas un événement isolé parce que Sfax vit, c'est la deuxième ville du pays, c'est une ville économique importante et elle vit un drame concernant toutes ces ordures. Parce que la politique, et ça remonte très loin, ça remonte même à la période de Ben Ali, où il n'y a pas eu une politique de la prospection quant au traitement des déchets ménagers. Donc il y a un site à côté de Sfax, dans une petite ville qui s'appelle Agherb, où c'était un abcès de fixation pour la population. Et ce site devrait se terminer définitivement au mois de décembre dernier. C'est fini, il ne peut plus accepter d'autres ordures. Et il n'y a pas eu, par les gouvernements qui sont passés depuis quelques années, de prévision pour voir où est-ce qu'on peut stocker toutes ces ordures ménagères ou bien le recycler. Et on a beaucoup tardé à opter vers le recyclage des ordures ménagères. Et voilà, nous sommes arrivés à une situation de blocage et la population d'Agher a porté plainte, la municipalité, et elle a obtenu une décision de justice de fermeture du site. Et donc, si vous voulez, la décision qui a été prise par le président de la République il y a deux jours, de réouverture du site, c'est une décision qui est contre la décision de justice. Et donc, c'est déjà... Il a empiété sur une décision de justice, ce qui est habituellement inacceptable.
Donc, une forme de défiance.
Oui, mais parce qu'il fallait trouver une solution. Donc, ils ont dit, on va réouvrir le site pour continuer à mettre les ordures, en attendant la solution définitive. Mais comme il n'y a pas eu d'explication, directement, la population s'est révoltée. S'est révolté et il semblerait qu'il y ait eu un mort, bon je ne sais pas, un mort. Le ministère de l'Intérieur dit que c'est un décès.
A affirmé que cette personne ne faisait pas partie des manifestants.
Et d'autres disent que il y a eu une utilisation abusive de gaz lacrymogène pour bloquer les manifestants et on a vu les images qui étaient des images quand même évidentes d'utilisation excessive de gaz lacrymogène et c'est peut-être donc il va y avoir une autopsie et donc les médecins vont dire de quoi est mort ce monsieur qui n'a pas de maladie par ailleurs, mais bon, ça
on le saura après. Vous attendez bien entendu des éclaircissements.
Des éclaircissements, ça, oui. Mais ce qui nous tracasse, c'est que le communiqué du ministère de l'Intérieur était catégorique. Et bon, les gens doutent très fort. Moi, les sections de notre parti, ASFAX, disent que probablement c'est dû au gaz lacrymogène. Donc, bon, maintenant, on saura après l'autopsie. Donc, voilà, c'est une situation révélatrice de la crise. C'est pour ça qu'on a appelé le président de la République à ce qu'il soit beaucoup plus mesuré dans son attitude, parce que la Tunisie, il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, et qui ne sont pas toujours dus au gouvernement qui vient de quitter ou à celui d'avant. C'est une accumulation historique et il faudrait les traiter avec beaucoup de pragmatisme et ne pas en faire un abcès ou un sujet de conflit avec l'opposition, parce que des déclarations du président de la République laissaient entendre que c'était les opposants à lui qui avaient bloqué le site, alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai à Sfax. Et lui-même, lorsqu'il a fait sa campagne électorale, il est allé à cette petite ville d'Aguerb et il leur a dit que ce site-là devrait être fermé. Donc les contraintes de la politique, c'est... Il faudrait quand même qu'il cesse d'attaquer d'une manière effrontée ses opposants. Hier, il y a un groupe de citoyens qui a créé ce qu'on appelle citoyens contre le coup d'État, qui avait programmé de faire une conférence de presse. La conférence de presse a été interdite. Ils l'ont faite dans la rue. Et ça nous rappelle Ben Ali, tout simplement. C'est comme ça qu'il faisait, hein.
Le président d'État Katol, le docteur et ancien ministre Khalil Zaouia, il était l'invité de rencontre ce matin, une émission rediffusée demain à 14h. L'allègement des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Maroc. Le gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu national en vigueur depuis les premiers mois de la pandémie en 2020. Une décision liée à l'amélioration de la situation épidémiologique dans le royaume. Elle fait suite, selon les autorités, aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Le pass vaccinal lancé le 21 octobre reste obligatoire pour voyager à l'étranger et accéder à tous les lieux clos. Le gouvernement marocain a accéléré début octobre sa campagne de vaccination pour une troisième dose en vue de renforcer l'immunité collective. C'est arrivé hier soir à Alger. 3 personnes ont été tuées par l'effondrement de leur maison. Un drame en raison de fortes intempéries. La maison s'est écroulée dans le quartier de Bolorine, dans la branche banlieue nord de la capitale, à la suite d'un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes. Les forces kurdes accusent la Turquie d'avoir tué 3 civils dans une attaque de drone en Syrie. Une attaque qui a visé une voiture dans la ville de Kamishli, dans le nord-est du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que l'attaque visait un responsable des FDS qui n'était pas dans la voiture, ajoutant que son grand-père, un de ses frères et une troisième personne ont été tués. Les prix des carburants au Liban, notamment l'essence, ont connu une nouvelle hausse. Ce matin, ils avaient déjà augmenté mercredi dernier, cela dans un pays qui subit une très grave crise économique et qui a mis fin aux subventions sur ces matières, faute de fonds. Ce sera vendredi prochain à Paris. Le président français réunira une conférence internationale sur la Libye. Objectif, donner une ultime impulsion aux élections du 24 décembre, des élections qui restent très incertaines, sur fond de regains de tensions entre camps rivaux en Libye. Face à une 5e vague de Covid-19 qui a débuté en Europe, le chef de l'État français a appelé hier soir les 6 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Les personnes âgées de 65 ans et plus, déjà éligibles à la dose de rappel, devront justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15 décembre prochain pour prolonger la validité de leur passe sanitaire. Cette campagne de rappel sera élargie début décembre aux personnes de 50 à 64 ans. Le président français Emmanuel Macron.
Face au regain de l'épidémie, les plus vulnérables sont nos aînés et ceux qui souffrent d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou de diabète sévère. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans. C'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans. Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elles puissent nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre. De la même manière que nous avions d'ailleurs organisé, vous vous en souvenez sans doute, durant le premier semestre, la campagne de vaccination.
Le chef de l'État français, lors de son allocution, Emmanuel Macron a aussi annoncé que la France allait construire de nouveaux réacteurs nucléaires, soulignant les avantages de cette énergie, notamment du point de vue climatique. Objectif, garantir l'indépendance énergétique de la France et atteindre la neutralité carbone en 2050. Un roman autour de la question musulmane. Il s'agit de Heureux comme Abdallah en France de Karim Gelati, publié aux éditions Encre de Nuit. Il raconte le parcours d'un immigré tunisien en France, confronté au débat sur la laïcité, l'écrivain Karim Gelati.
Ce livre est une histoire assez particulière. C'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. J'avais entendu que ça avait sifflé dans les écoles et que la minute de silence républicaine n'avait pas tout à fait été respectée. Donc je m'étais dit que j'allais faire le job avec les enfants. Je l'ai fait, il n'y avait pas de souci. Et à la fin du dîner, je demande à mon fils, je lui dis, mais toi, tu dis à l'école que ton papa est musulman, tunisien? Bon, lui, bah oui, quoi. Et je pose la même question à ma fille, et ma fille me dit, non, moi je le dis pas, baissant la tête dans son assiette. Et je lui dis, bah pourquoi? Elle me dit, parce que si je le dis, j'aurais plus le droit de manger du jambon à la cantine. Donc je suis un peu perplexe, ça me perturbe, et je me dis qu'il va falloir que je fasse le job avec mes enfants, que je leur explique que leur rapport à la religion, il leur est propre, il y a des impératifs, il leur est propre, et personne ne doit leur dicter qu'ils doivent faire ou qu'ils doivent pas faire. Mais je sais pas très bien comment m'y prendre, et vient l'idée d'écrire un roman pour mes enfants où je de manière didactique, je leur explique leur tunisianité et l'islam. Et puis après, la machine d'édition part et le bouquin sort. Mais au départ, il était écrit à destination de mes enfants.
Alors, qui est Abdallah, le héros de votre roman?
Alors, Abdallah, c'est vraiment un mélange de tous ceux que j'ai pu rencontrer, une synthèse en fait, de tous ceux que j'ai pu rencontrer en cours d'écriture. J'ai fait beaucoup de recherches, non pas sur l'islam, même si j'ai dû faire quelques petites recherches sur l'islam parce que je les avais déjà faites auparavant lors d'un premier ouvrage, mais surtout pour voir quels étaient les points à partir desquels il y avait des individus qui pouvaient se retrouver en rupture avec la République. Et ce point de départ, et le point de rupture avec la République, ouvre après la voie des possibles sordides, et dans ces possibles sordides, il y a la radicalisation et encore un peu plus loin le terrorisme. Donc Abdallah, c'est un peu la synthèse de tout ça, et il va réagir de manière théologique à l'actualité qui traverse la France en 2015, et à chaque fois, donc, en prenant comme point de départ ces crispations que peuvent subir certains musulmans. Et il va aller les expliquer, ou les contredire d'ailleurs, soit avec par l'islam, en allant faire des recherches dans les textes, soit d'ailleurs par la laïcité, en disant la laïcité, c'est pas tout à fait ce qu'on veut nous imposer.
Abdallah subit des injonctions contradictoires, trop musulman pour ceux qui ne connaissent pas sa religion, pas assez musulman pour les islamistes.
C'est ça. Si vous voulez, aujourd'hui, un musulman qui arrive en France, qui émigre en France, il en perd son latin, pardon pour le jeu de mots, mais il en perd son latin. C'est-à-dire qu'il va aller vers sa communauté, et souvent sa communauté va effectivement lui demander de pratiquer un islam beaucoup plus rigoriste qu'il ne les pratique dans leur pays d'origine, qu'en l'occurrence, enfin en l'espèce, le Maghreb, la Tunisie. Donc ils sont un peu déstabilisés par ça. Et parallèlement à ça, on leur demande au travail et dans leur vie laïque, civile, d'être particulièrement laïque, c'est-à-dire, et ils le vivent comme un renoncement à ce qu'ils sont. C'est une sorte de, on leur demande de jeter un voile sur leurs origines et sur leurs croyances. Intégration, assimilation, assimilation, intégration, tout ça c'est de la sémantique. Le fait est, c'est qu'à partir de ces principes-là, il y a parfois des prétextes pour renoncer à des choses qui sont tout à fait compatibles avec la République, et l'islam est une religion qui est compatible avec la République, et la République avec l'islam aussi d'ailleurs.
Votre livre contient aussi de nombreuses réflexions sur la place de la femme dans l'islam, mais aussi dans les pays de tradition musulmane.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui fait dire à ma femme d'ailleurs que Abdallah, c'est le premier féministe musulman qu'elle a rencontré. D'abord, c'est pas très vrai. Il y a beaucoup de féministes musulmans. Mais effectivement, Abdallah va se poser des questions sur la place de la femme dans l'islam, parce qu'il va vivre une altercation au sujet de ses filles, qui vont se faire un peu malmener. Bon, je vais pas dévoiler le roman, parce que ça reste un roman avec des intrigues. Et là, il va s'interroger effectivement sur le rôle de la femme dans la religion musulmane. Le point de départ, c'est le voile. Il va se rendre compte, mais ça tout le monde s'accorde à le dire, que le port du voile n'est pas un impératif musulman, mais même au-delà de l'impératif, ça n'est même pas une recommandation musulmane. Le voile, c'est identitaire, c'est ce qu'on veut, c'est culturel, mais c'est pas musulman. Et il va aller au-delà, il va aller sur les problématiques un peu limites urbaines qu'on a en Occident, sur ces hommes qui épousent. Vous savez, on parle de la polygamie chez les musulmans en disant il n'y a pas de droit de la femme dans l'islam. La polygamie, coraniquement, n'est autorisée que si la seconde femme est veuve, qu'elle est dans le besoin et qu'elle a des enfants dans le besoin. Et ces conditions sont des conditions cumulatives. C'est pas du tout la pratique qui en est faite au Moyen-Orient. Mais coraniquement, c'est comme ça que c'est présenté. Et donc Abdallah arrive à cette conclusion de se dire que finalement, la religion musulmane, lorsqu'elle est révélée, le Coran, lorsqu'il est révélé, il a attribué, un, une personnalité juridique à la femme, deux, des droits, notamment le droit de divorcer. La répudiation n'est pas, on considère que le Coran, c'est la répudiation. Abdallah démontre qu'on est très très loin de la répudiation, la pension alimentaire est instaurée par le Coran, la prestation compensatoire est instaurée par le Coran. Tout ça, ce sont des concepts en Occident moderne, mais qui sont très très vieux pour les musulmans. Et finalement, il se dit, cette religion, l'islam, quand elle naît, elle consacre une personnalité juridique à la femme, là où la société se pose la question de savoir si la femme a une âme. Le point de départ, il est là.
L'écrivain Karim Gelati, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, et David Gall, conseiller municipal à Donville-les-Bains, émission présentée par Loïc Barrière. Il est midi 18 à midi 30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, et 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.